Oui, c'est un personnage à nul autre pareil.
Mais il y a un drôle de nom, en tout cas. Pierre Esprit, là,
C'est
c'est
le seul
plutôt.
Pierre Esprit que j'ai rencontré dans mes recherches
Dans
historiques,
votre vie?
à part son père.
Ah.
C'est un junior de surcroît.
Ah,
Ah
c'est un
bon.
junior, toi.
Voilà, mais bref, Pierre Esprit Radisson, je vous donne un résumé d'abord, j'irai en détail par la suite. Il a immigré en Nouvelle-France à l'adolescence. Il a vécu chez les Premières Nations. Il a travaillé pour la France, pour l'Angleterre, pour la France encore, puis à nouveau pour l'Angleterre. Il aurait fait la traversée de l'Atlantique 23 fois, en plus de participer à la fondation de la Compagnie de la baie du Son, qui est en train d'agoniser sous nos yeux. On pense que Radisson est né vers 1636 à Paris. Son père, Pierre Esprit, premier du nom, est un petit commerçant qui décède alors que son fils est encore très jeune. Certaines sources disent que sa mère, Madeleine Hainaut, serait décédée pas très longtemps après. Mais si on sait beaucoup de choses à propos de la vie adulte de Radisson et de ses expéditions qu'il a racontées dans une série de récits de voyage très détaillés, on ne sait pas grand-chose sur son enfance. Mais il a à peu près 15 ans lorsqu'il débarque en Nouvelle-France, et dans les mois après son arrivée en Amérique, il est fait prisonnier par les Agnés, que les Anglais appelaient les Mohawks, alors qu'il était à la chasse. Il s'enfuit, il est rattrapé, il sera finalement adopté par une famille Agnée, ce qui était une coutume répandue chez les Premières Nations. On adoptait des gens d'autres nations qu'on faisait prisonniers pour remplacer des guerriers tués au combat. Il va passer près de 2 ans dans sa nouvelle famille, mais va décider de tourner le dos à sa vie chez les Agnés et de revenir en Nouvelle-France. Mais les connaissances linguistiques et culturelles héritées de son temps à vivre parmi les Premières Nations vont faire de lui la recrue parfaite pour une mission entreprise par les Jésuites chez les Onondagués, qui est une autre des nations de la Confédération Haudenosaunee, tout comme les Agnés. Mais l'entreprise va tourner en queue de poisson. Et les Français présents à la mission ont dû utiliser un subterfuge pour réussir à s'enfuir alors qu'ils craignaient pour leur vie. Ce ne sera pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois, dis-je bien, que Radisson va échapper de peu à la mort. Suite à cette expérience, s'amorce un nouveau chapitre dans sa vie, celle de sa collaboration avec Médard Chouard Desgroseilliers, lui aussi un Français arrivé en Amérique du Nord assez tôt, qui a épousé la sœur aînée de Pierre-Esprit Radisson, et les beaux-frères vont former une équipe assez redoutable pendant une quinzaine d'années. Le moteur de l'économie de la Nouvelle-France, à ce moment-là, c'était les fourrures. Tôt dans l'histoire de la colonie, se développe un système commercial assez complexe, où non seulement les Français ne chassaient et ne piégeaient pas leurs propres animaux à fourrure, ils obtenaient les pelleteries de nations autochtones alliées en échange de marchandises européennes. Et ces nations, très souvent, servaient d'intermédiaires. Elles obtenaient à tout le moins une partie de ce qu'elles vendaient aux Français, d'autres peuples à l'ouest et au nord. Et un des principaux intermédiaires des Français, c'était les Wendats, ou les Hurons, installés dans le sud de l'Ontario actuel. Les Wendats sont définitivement vaincus, par les Haudenosaunee vers 1650. C'est ce qu'on a appelé la destruction de la Huronie. Et ça crée un trou dans la chaîne commerciale de la Nouvelle-France. Et c'est notamment pour travailler à combler le vide laissé par la dispersion des Wendats que Radisson et Desgroseilliers vont partir vers l'ouest en 1659-1660. Les Nakawecs, que les Français appelaient les Sauteux ou les Sauteaux, organisent un grand rassemblement de beaucoup de différentes nations dans la région du lac supérieur, notamment parce qu'ils souhaitaient prendre la place occupée par les Wendats dans le commerce avec la Nouvelle-France. Et là, pendant le rassemblement, Radisson et Desgroseilliers font un grand discours où ils présentent essentiellement la politique étrangère de la Nouvelle-France vis-à-vis des Premières Nations. Mais il y a un petit détail toutefois. Non seulement les deux aventuriers n'avaient pas reçu le mandat d'aller faire ça, mais le gouverneur de la Nouvelle-France, Pierre de Voyer d'Argenson, leur avait formellement interdit de faire le voyage. Mais qu'à cela ne tienne, ils sont là, ils essaient de nouer des alliances avec les premiers peuples. Et après 8 mois dans la région du lac supérieur, Radisson et Desgroseilliers reviennent à Montréal avec une 60aine de canots pleins de fourrures. Ça a été très payant pour la colonie, très payant pour les beaux-frères, même s'ils ont été mis à l'amende comme c'était un voyage non autorisé.
Alors le gouverneur était content.
Il était content finalement de pouvoir, parce qu'effectivement ça a beaucoup contribué à... que la colonie puisse survivre, mais il y avait quand même, et surtout que, bon, Radisson disait que le gouverneur, possiblement, que lui aussi avait des intérêts financiers dans l'affaire, c'est pour ça qu'il ne voulait pas faire le voyage. C'est souvent des réseaux très complexes, parce qu'on mélangeait beaucoup la politique et l'enrichissement personnel à cette époque-là, certains diraient plus encore qu'aujourd'hui.
C'est oui.
Ça. Je pense que c'était encore plus flagrant que ça peut ne l'être de nos jours. Mais tout ça pour dire que l'attitude du gouverneur va grandement contrarier Radisson, qui disait, ben, on a sauvé la colonie de la ruine et c'est comme ça qu'on nous remercie. Ça va lui rester en tête par la suite. Mais pendant le voyage, les beaux-frères sont entrés en contact avec des Cris. Et ça, c'est un événement qui va changer le cours de leur existence. Les Cris faisaient partie des nations qui vendaient à d'autres nations, qui vendaient aux Français. Et c'est bien connu dans le commerce, on essaie toujours d'éliminer des intermédiaires. Ils vont parler aux beaux-frères des possibilités qu'offrent la baie du Son et la baie James. On savait qu'on pouvait y accéder par l'océan, les Anglais l'avaient déjà fait. Donc, on avait une belle réserve de peau dans cette région-là qu'on pouvait envoyer directement en Europe sans passer par un réseau de petites rivières qui nous menaient dans la vallée du Saint-Laurent où les autorités coloniales imposaient des taxes sur les fourrures exportées.
Genre de tarifs douaniers, là.
Je pense que le terme peut s'appliquer, effectivement. Mmh. Puis souvent, on parlait du tarif du quart. Donc, c'était des tarifs d'à peu près 25 %. Donc, ça me semble très actuel comme, de présenter ça comme ça. Évidemment, on met des bâtons dans les roues de Radisson et des Groseilliers. On avait compris ce qu'ils cherchaient à faire. Ils ne vont trouver personne pour financer leur expédition vers la baie du Son. Enfin, personne en Nouvelle-France. Ils vont plutôt se tourner vers la Nouvelle-Angleterre, puis vers l'Angleterre. Ils font des contacts à Londres. Des Groseilliers fait une expédition là-bas qui fonctionne en 1668-1669. Et ça va convaincre la couronne britannique d'accorder le monopole du commerce des fourrures dans la région à la Governor and Company of Adventures of England Trading into Hudson's Bay, qui a été abrégé en Hudson's Bay Company, qui reçoit sa charte royale en mai 1666. C'est donc confirmé, les beaux-frères travaillent maintenant pour la Grande-Bretagne. Mais ça va changer à partir de 1675. Il y a un nommé Lord Shaftesbury qui prend la tête de la compagnie. Lui, il déteste les Français, en général, pas spécifiquement nos deux aventuriers. Et il y a aussi un père jésuite qui avait tenté de convaincre Radisson et des Groseilliers de changer à nouveau de camp. À Londres, on commence à se demander pour qui les deux hommes travaillent réellement. Ils vont donc repasser en France. Et en 1682, Radisson se met au service d'une compagnie française qui souhaite concurrencer ses anciens collègues sur leur terrain à la baie du Son. L'objectif à ce moment-là, c'était l'embouchure du fleuve Nelson qui se jette dans la baie dans ce qui est aujourd'hui le Manitoba. Radisson va manœuvrer avec un petit groupe de Français pour prendre le contrôle des lieux, mais alors qu'il espérait faire passer en doute la cargaison de pelleterie qu'il ramenait du fleuve Nelson, elle est interceptée. Il va s'en suivre des tractations en très, très haut lieu. On ne peut pas avoir un plus haut lieu que ça. Le roi d'Angleterre considère le territoire de la baie du Son comme une colonie britannique et exige qu'on lui rende le fort français installé à l'embouchure du fleuve Nelson. Et Louis XIV de France va reconnaître l'autorité des Britanniques sur la région. Et cette longue et périlleuse expédition qu'a fait Radisson ne lui a pas rapporté un sou et ça ne lui a pas ouvert un nouveau marché pour un enrichissement futur. La seule chose que ça lui a rapporté, c'est de se faire offrir une job à son ancienne compagnie. La compagnie de la baie du Son était rendue dans le rouge. On s'est dit, la seule personne qui peut nous aider, c'est Pierre-Esprit Radisson. Il est donc réembauché par les Anglais. Mais ce ne sera que temporaire, finalement, le temps file, mais il avait des ennemis un peu partout où il est passé. Finalement, on a réussi à ce qu'il soit évincé de la compagnie après qu'il ait installé la traite des fourrures sur le fleuve Nelson. Et sa vie d'aventurier, à ce moment-là, était terminée. Il va passer beaucoup de temps dans les dernières années de sa vie devant les tribunaux pour tenter d'obtenir de ses anciens employeurs ce qui lui était dû. Il vit à Londres, au-dessus de ses moyens, et c'est ce qui fait que sur son acte de décès, on le présente comme un gentleman ruiné. Je trouve ça un peu gratuit, mais lui qui avait tellement travaillé pour pouvoir s'enrichir, il semble bien qu'il n'y est pas parvenu.
Dites-moi, Marcel, là, on parle de la compagnie de la baie du Son, mais est-ce que la compagnie de la baie du Son à cette époque avait un pignon sur rue quelque part, ou c'était plutôt lié au commerce, aux actes de commerce là, qui se faisaient un peu partout dans le territoire?
Mais la compagnie avait pignon sur rue dans le sens qu'à certains moments, la compagnie de la baie du Tson a contrôlé à peu près la moitié du Canada, peut-être plus. Donc, c'est pour ça que j'hésite un peu à dire que la compagnie de la baie du Tson d'aujourd'hui, techniquement, c'est la même compagnie qui a été fondée en 1670, mais on est très loin de quelques magasins à grande surface. C'était vraiment, la compagnie contrôlait des centaines de milliers de kilomètres carrés de territoire, on avait un monopole. C'était une ancienne conception des compagnies. C'était pas un cas unique, d'ailleurs. Toutes les grandes puissances coloniales avaient des compagnies comme ça, qui avaient le monopole du commerce sur tel ou tel produit, et qui exploitaient les populations locales de différentes manières à l'époque. Là, c'était vraiment la façon dont on faisait des compagnies à ce moment-là qui diffèrent à certains égards de la conception qu'on a d'une compagnie.
Aujourd'hui, c'est ça, oui. Bien, merci, Marcel. Très intéressant parce qu'il y a quand même un lien avec l'actualité et on se retrouve la semaine prochaine.
On se retrouve la semaine prochaine.